Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La persécution est une réalité douloureuse qui touche de nombreux chrétiens à travers le monde. Il est donc pertinent de comprendre ce que la Bible dit à ce sujet. Pour cette raison, nous réfléchirons sur ce thème de la persécution tout au long de cette nouvelle série d'émissions.
Nous sommes contents d'accueillir Didier sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Didier, bonjour.
Merci Yann, bonjour à tous.
Didier, nous allons donc parler de la persécution. Par où voulez-vous commencer?
Je pense qu'il convient d'expliquer ce que nous entendons par le mot persécution. Dans notre série, nous allons parler uniquement de la persécution du chrétien ou de l'Église. Nous sommes conscients que d'autres personnes ou groupes minoritaires peuvent aussi souffrir de la persécution. Mais nos discussions porteront sur le chrétien et son contexte. Le dictionnaire Larousse donne la définition suivante au mot persécution. C'est l'action de persécuter, de prendre des mesures violentes ou arbitraires à l'égard d'une communauté religieuse ou ethnique.
Merci. Pouvez-vous nous donner quelques exemples qui nous aideront à comprendre quelle forme la persécution peut prendre de nos jours?
Oui. D'abord, je voudrais parler de la persécution au sein même de la famille. Car, parfois, lorsqu'une personne met sa foi en Jésus-Christ, sa famille la rejette, car elle n'accepte pas du tout ses nouveaux choix. Cela peut se produire lorsqu'une famille appartient à une autre communauté religieuse et qu'elle perçoit tout membre de sa famille qui change de religion comme un traître qui apporte la honte et le déshonneur. Ces sentiments peuvent être si forts que la famille peut commencer à persécuter celle ou celui qui veut suivre Jésus. Cette persécution peut prendre la forme de violences verbales ou même physiques très graves. Parfois, la famille peut renier celle ou celui qui suit Jésus, là où le chasser de la maison. Ou bien, la famille peut en venir à séquestrer le croyant chez eux et à supprimer certains de ses privilèges, ou même le priver du nécessaire vital, le traitant plus en esclave qu'en fils ou fille.
Il est difficile de comprendre comment une famille peut se retourner ainsi contre un des siens.
C'est vrai, Yann, mais ce sont de dures réalités auxquelles nos frères et sœurs dans certaines cultures doivent faire face. Je voudrais dire à présent que ces réalités éprouvantes ne devraient pas nous surprendre.
Pourquoi?
Parce que Jésus nous a avertis que les choses se dérouleraient ainsi. Citons par exemple l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 36. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. » Je le précise et insiste sur ce point. Jésus n'a jamais voulu diviser les familles. Ce n'est pas son intention. Bien au contraire. Toutefois, il sait fort bien que là où la bonne nouvelle est prêchée, des hommes et des femmes viendront à lui, tandis que d'autres s'opposeront violemment à lui, et ils s'en prendront même à ses disciples. Or, malheureusement, ce phénomène tragique brise des familles.
Y a-t-il d'autres formes de persécution que vous voulez mentionner?
Oui, je voudrais évoquer la persécution au niveau de l'État.
Autrement dit, le gouvernement d'un pays peut délibérément s'en prendre à la communauté chrétienne et la maltraiter.
C'est exact, Yann. Un État peut se sentir menacé par la présence de la communauté chrétienne et chercher à étouffer ou à anéantir l'Église. La persécution étatique peut prendre, elle aussi, plusieurs formes. L'État peut emprisonner, torturer ou même assassiner des chrétiens. surtout les pasteurs et les responsables d'église. L'État peut chercher à fermer les lieux de culte et à interdire les réunions. Dans certains pays, il existe des lois très préjudiciables aux chrétiens. Cela peut être des lois discriminatoires qui font que les chrétiens ont du mal à trouver un emploi ou qui les privent de certains droits et privilèges. Une fois de plus, l'enseignement de Jésus révèle que nous ne devons pas être surpris par ces dures réalités. Je cite de nouveau l'évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 16 à 18. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez sur vos gardes, car on vous traduira devant les tribunaux des Juifs, et on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois, à cause de moi, pour leur apporter un témoignage, ainsi qu'aux nations païennes. Beaucoup d'autres textes dans le Nouveau Testament confirment que les autorités de certains pays peuvent persécuter les chrétiens de diverses manières. Les motifs de ces persécutions sont très divers et peuvent être de nature politique, économique ou religieuse.
J'aimerais savoir dans quel but nous abordons cette série et on poursuit la persécution. Après tout, ce n'est pas le plus heureux des thèmes.
La persécution est une réalité quotidienne endurée par certains de nos frères et sœurs à travers le monde. Nous ne devons pas fermer les yeux à cette réalité et prétendre qu'elle n'existe pas. C'est pourquoi je voudrais apporter un regard biblique sur ces épreuves, et ceci dans le but d'atteindre deux objectifs. D'abord, je voudrais apporter un soutien à toute personne qui vit la persécution, à cause de sa foi en Jésus-Christ, que ce soit au sein de sa famille ou devant les autorités. Je voudrais encourager ces personnes à tenir ferme dans leur foi et à être fidèles dans leur témoignage. Je voudrais leur apporter un réconfort et une espérance. Ensuite, mon deuxième objectif est de sensibiliser l'Église à ces problèmes et d'aider tout croyant à soutenir et aimer ses frères et sœurs persécutés, même si c'est simplement en priant pour eux. L'Église est le corps de Christ et nous devons exprimer notre compassion et notre solidarité envers ceux qui subissent la persécution à cause de leur foi.
Merci. Oui, nous comprenons ainsi toute l'importance de ce sujet. Et en attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Merci Yann, et au revoir à tous.
Merci Didier. L'apôtre Pierre était encore présent lorsque les premières églises en Asie mineure ont commencé à être confrontées à la persécution. Dans sa première lettre, Pierre s'adresse à ces églises pour leur donner des conseils et du réconfort alors que les croyants commençaient à souffrir à cause de leur foi. Ainsi, lors de nos courtes méditations bibliques, nous allons parcourir ce livre de 1 Pierre pour apporter un encouragement à tous nos amis qui aujourd'hui souffrent à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est notre invité Antoine qui nous fera part de ses réflexions. Mais d'abord, Sandra va nous lire un texte biblique en 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 1 et 2.
Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en hôtes de passage, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez été consacré par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées.
Nous venons de lire les premières paroles de la lettre que l'apôtre Pierre a envoyée aux églises situées en Asie mineure. Je voudrais brièvement parler de trois leçons susceptibles de rassurer toute personne qui subit des épreuves ou rencontre l'opposition à cause de sa foi. D'abord, Pierre rappelle que le chrétien est dans ce monde comme un hôte de passage. D'autres traductions de la Bible utilisent le mot « exilé » ou « étranger ». Dans ce monde, le chrétien n'est pas chez lui. Sa véritable demeure est dans l'éternité. En raison de sa foi en Jésus-Christ, le chrétien va se comporter différemment des autres personnes qui l'entourent et il peut du même coup se sentir comme un étranger. Et malheureusement, les personnes différentes, y compris les étrangers, peuvent être mal vues et maltraitées. Trop souvent, les différences suscitent la méfiance, le mépris et parfois la persécution. Le chrétien doit accepter l'idée qu'il n'est que de passage dans ce monde et il ne doit pas s'étonner si les différences qu'il montre engendrent des épreuves et l'opposition. Ensuite, Pierre nous rappelle que si nous sommes comme des étrangers dans ce monde, c'est parce que nous appartenons au Dieu trinitaire. Pierre cite l'œuvre de notre Père céleste, celle de Jésus-Christ, ainsi que celle de l'Esprit-Saint. Le Dieu trinitaire nous a choisis, il nous a sauvés, il nous a purifiés et nous a consacrés pour être un peuple nouveau à son service. Peut-être certains croyants, éprouvés par la persécution, se demandent s'ils ont pris la bonne décision en mettant leur foi en Jésus-Christ. Pierre, dès le début de sa lettre, leur rappelle alors les privilèges précieux de leur identité en Christ. Aux yeux du monde, le chrétien peut sembler être perdant, mais en réalité, il est le grand gagnant, car vivre en communion avec le Dieu trinitaire est le meilleur des choix, dès maintenant, et c'est ce que tous découvriront dans l'éternité. Enfin, Pierre oriente nos regards vers l'abondance de la grâce et de la paix que nous pouvons trouver par la foi en Jésus-Christ. En effet, vivre des épreuves est difficile, subir la persécution est douloureux. Mais dans les tribulations, le chrétien n'est pas seul, il ne se trouve pas abandonné. Il doit persévérer et continuer à placer sa confiance en Jésus, qui a le pouvoir d'apaiser ses peurs et ses inquiétudes au sein même de la tourmente. Jésus, par sa grâce, aide le croyant à tenir ferme dans sa foi et à endurer les épreuves et les persécutions avec patience et joie. Nous n'arriverons jamais à faire face aux difficultés seuls, mais Dieu est avec nous pour nous fortifier et remplir nos cœurs de sa paix et de sa grâce.
Merci Antoine pour ces paroles encourageantes.
Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour continuer notre série sur la persécution. En attendant de vous retrouver, chers amis, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.